midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Et vous le savez, Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat tous les week-ends. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonjour Manuel Mariani.
Bonjour Philippe.
Vous vous levez, on vient à peine de commencer. Ah oui, d'accord.
Alors... Ben oui, non mais vous voyez, je vous fais des gestes parce qu'à la radio, on communique par gestes. Hein.
Voilà. Ah, je me trouve très aventurier aujourd'hui. Vous me demandez de démarrer la caméra, Manu.
Absolument.
Alors, c'est des choses qu'il ne faut pas me demander.
Hein. Ah oui, parce qu'on a, on a un invité qui est très radiophonique, non, télégénique, hein. Avec sa casquette. Hein.
Alors là, je vous trouve très en compliment aujourd'hui, Manu. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Bah non, mais moi j'adore les casquettes, j'adore les gens un peu lookés et tout, donc
bon, alors on présente, ça fait plaisir. Présentez-nous notre invité, Manu.
Alors, on présente l'invité avant de présenter le sujet, Philippe.
On fait comme ça, on est freestyle. J'en profite pour vous remercier et vous remercier, Manu, de l'attention que vous avez eue hier, puisque vous m'avez rapporté le meilleur guacamole de Paris, de chez Aka.
Ouais, Aka Pigalle.
Qui est vraiment très très bien, super. Ouais.
Le guacamole du chef Grant Boos, qui, comme son nom ne l'indique pas, est tout à fait mexicain.
Ouais. En tout cas, moi, je trouve très très loin au niveau du guacamole. Et il faudrait dire à ceux qui nous écoutent que tous les mardis à Capigal,
tous les mardis, il y a le taco Tuesday chez à Capigal, les tacos qui sont aussi parmi les meilleurs de Paris, peut-être même les meilleurs de Paris.
Ouais.
C'est les vrais tacos, hein. C'est pas les tacos que mange Maître Boily avec la sauce fromagère dans des bouteilles en plastique, là. Mm. Hein, c'est pas aux tacos, c'est des vrais tacos mexicains préparés par Grant Boos, originaire de Sonora au nord-ouest du Mexique. Et le Taco Tuesday, c'est que les mardis, les tacos sont à 1 euro, Philippe.
C'est 1 euro le taco, ça. Je peux vous dire, franchement, allez-y de notre part. Non, 1 euro.
Allez-y de la part de Beurre FM. Vous mangez un guacamole et 4 tacos et vous en avez pour 10 balles.
Voilà. Et c'est du taco à signature. Hein.
Ouais. Des très bons tacos. Mais d'ailleurs, notre invité du jour, Philippe Baranès, lui aussi a des restaurants où on mange à très bon prix, à très bon compte. Ça, c'est le côté vertueux, outre les produits des restaurants de Philippe Baranès, notre invité du jour, puisqu'il a 4 restaurants. Alors, je l'ai fait dans le désordre, hein. D'essence, dans le deux sens, on dit deux sens peut-être, Philippe.
Ouais, on dit deux sens. Ouais.
Deux sens avec deux S, donc dans le 3e rue des Archives, pas très loin de chez moi et pas très loin de chez vous, Philippe. Et puis OPA restauratrice sur la rue Condorcet. Puisque quand on prend la rue Condorcet, on a dans l'ordre Il Cuoco Galante, un restaurant italien où on mange de très très bonnes pâtes. Puis le Brésanville, on adore le jeu de mots avec Philippe, hein, de Brésanville. Donc un restaurant...
Et Maître Boily aussi qui se balade toujours avec son sac à main.
Avec son Brésanville aussi.
Avec son Brésanville.
Voilà, mais dans le Brésanville de Maître Boily, il n'y a pas de braise, alors que dans le Brésanville de Philippe Baranès, il y a des vraies braises et tout, absolument tout est cuit à la braise. Alors c'est quoi, c'est des fourges Jospère, Philippe? Voilà, donc les fourges Jospère qui sont des très beaux matériels, hein, pour faire la cuisine. Je rêve d'en avoir un, hein, d'ailleurs. Ouais, mais bon,
c'est un peu gros
pour moi, pour chez moi, pour ma petite cuisine, mais j'ai déjà cuisiné avec, c'est top, hein. C'est vraiment bien, les fourges Jospère. Donc tout est cuit à la braise, y compris les nombreux champignons qui figurent à la carte du Brésanville. Alors après
vous avez été un des premiers à importer le four, non?
Il y a 10 ans. Donc,
Parce que c'est à la mode depuis 5 ans, 4-5 ans, les Jospère. Ouais.
Ouais, mais c'est vrai, il y a 10 ans, j'étais. À Paris, en tout cas, j'étais le premier.
Ouais. Ouais, il y a vous, il y a eu Raphaël Rigaud après.
Exactement, mais au début, ouais. Mais j'étais très content d'être le premier. Enfin, j'ai pas fait pour être le premier, mais disons que.
Ouais, mais bon, il faut bien que quelqu'un commence.
Mais ça, c'est dans votre ADN, vous êtes un innovateur, en fait. Vous êtes un innovateur de la cuisine.
A priori, je pense que ouais. Mais pas pour monter, ouais. Mais c'est le principe de trouver des choses un peu excitantes et qui me plaisent à un moment donné. En fait, la réflexion, elle est pas très marketing. Elle est vraiment sur. C'est plutôt instinctif.
C'est l'énergie du moment.
Ouais,
parce que même si vous cuisinez, même si vous êtes autodidacte de la cuisine, parce qu'à la base vous êtes plutôt dans la peinture, dans l'art. Mais je vous ai présenté plus comme restaurateur que comme chef, parce que même si vous cuisinez, vous avez un chef dans chacun de vos restaurants et vous pensez les cartes à quatre mains, vous concevez les menus, les concepts, etc. Vous êtes un vrai concepteur de restaurant, en fait.
Ouais. Alors moi, je me considère même comme un accoucheur de talent, on va dire.
Ouais, c'est ça.
D'une certaine façon, je fais un peu Socrate, mais disons que c'est pas de la maïeutique, mais c'est de la cuisine. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Mais c'est-à-dire, j'essaie de trouver des gens pour révéler leur vrai talent personnel. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse être partout et puis imposer une vision de, d'une cuisine qu'on va. Mais c'est plutôt une vision de la qualité et de la qualité et créative et au niveau des produits dans les, et dans l'exécution. Mmh. Moi, effectivement, j'ai l'idée à la base d'un projet et après j'intègre des gens qui vivent avec moi le projet. Donc on travaille un peu à quatre mains et après au fur et à mesure, je lâche les gens dans leur dans leur exécution et dans leur créativité.
Et vous leur faites confiance après, voilà.
Ça n'exclut pas le contrôle.
Ouais, ça, c'est, alors ça c'est voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Voilà, c'est tout. Parce que sinon, je pense qu'au bout de pas longtemps, vous pouvez retomber. Le but, c'est toujours de contrôler, mais c'est de toujours et de nourrir les gens. En tout cas, ceux avec qui je travaille. C'est ça qui est pour moi le plus important.
Bon, on connaît un peu plus l'ADN. De Philippe Baranès qui, comme je le disais au départ, était plus dans l'histoire de l'art, la peinture.
Ouais. C'est à la base, oui.
Mais ce qui fait que d'ailleurs dans vos restaurants, il y a toujours des décos très pensées, très travaillées. Vous avez reçu un prix d'ailleurs, je crois, pour Descens.
Ouais, j'ai eu le prix du design à Paris. Ouais, c'est exact.
Bah bravo.
C'était pas calculé non plus, mais c'est vrai parce que maintenant de toute façon, je pense que c'est un peu plus l'époque actuelle qui est comme ça, c'est qu'on raisonne de plus en plus le restaurant comme un tout et non pas uniquement ou une cuisine ou uniquement un décor. Il faut qu'il y ait une espèce de
expérience client.
Voilà, ouais, voilà. Ça c'est le côté.
Ouais, c'est ça. Un voyage.
C'est l'expérience client.
Ouais. Non, mais c'est vrai, sans chercher à mettre des mots sur le truc, mais c'est-à-dire que quand on va quelque part, c'est bien de se sentir bien dans l'espace. Mm. On vit. C'est vrai qu'il y a la façon dont on mange, il y a tout en fait qui contribue à faire qu'on passe un bon moment. Il n'y a pas que l'assiette.
Ouais, et puis il y a eu les périodes dans les années 90, on avait le même décor de Jacques Garcia dans tous les restaurants. Ouais. Il y a eu la période où on avait le même décor de Stark dans tous les restaurants. Puis maintenant il y a quelques nouveaux designers encore qu'on retrouve dans tous les restaurants. Donc c'est vrai que ouais. c'est quand on trouve un restaurant avec un cadre qui sort de l'ordinaire, c'est toujours agréable en plus de l'assiette d'avoir un joli cadre.
C'est l'idée à la base, c'est ça, c'est faire un tout et une espèce d'univers en soi et qui doit être cohérent en fait.
Voilà. Et vous aimez, alors ça va être pour faire la transition avec le sujet de l'émission. Vous aimez bien mettre pas mal de végétal dans le cadre de vos restaurants, mêler la pierre et le végétal ou le bois et le végétal.
Ouais, absolument. Ouais. Disons que à Brazzaville, c'était lié au fait à la base, c'est-à-dire que la décoration devait soutenir la notion de la braise.
Ouais.
Donc il y avait du bois parce que le bois est un élément pour construire le charbon. Il y avait de la pierre, il y avait...
Et puis de la brindille, pour faire le feu.
Oui, il y avait une chose qui doivent sous-tendre. Et le choix des couleurs aussi devait sous-tendre l'incandescence. C'est-à-dire que ça ne doit pas se voir, mais ça doit se ressentir. Et effectivement, donc il y a souvent du bois, il y a souvent du végétal. À Descens, il y a beaucoup de végétal. Beaucoup, beaucoup, parce que c'est dans un écrin et ça se trouve dans un jardin, donc c'est assez joli. Et à Marot, le dernier, lui aussi, effectivement, il y a beaucoup de végétal, mais parce que c'était... je sais pas, ça représentait un peu une tonnelle. L'idée un peu donc de vacances, de voyage.
À Marot, oui, j'ai découvert ça avant-hier, hein, puisque c'était l'inauguration presse de votre dernier bébé, donc que je n'avais pas cité, donc le dernier né de la rue Condorcet, puisque comme je dis, vous avez fait une OPA immobilière sur le début de la rue Condorcet, avec trois restaurants qui se succèdent. Bon, le prochain local qui se libère, vous allez faire quoi dedans?
Il y en a un qui s'est libéré.
Ah, c'est vrai.
Ouais, voilà. C'est vrai en fait. Bon. On me demande, pour le moment j'ai rien dit.
D'accord. Oui, mais enfin ils vous ont vu venir. Hein. Ils se sont dit tiens, faut aller le proposer à Baranès.
Maintenant ils viennent me voir. Mais c'est vrai, maintenant ils viennent me voir directement. C'est assez drôle.
Bon, et puis on parlait de végétal. Vous avez vous-même été végane, fut un temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en général un restaurateur ou un chef qui est végane. Quand on va dans son restaurant, on est en plein prosélytisme. C'est no meat, no fish, no eggs. Alors que vous n'êtes pas du tout prosélyte, même quand vous étiez végane dans vos restaurants, il y avait de quoi satisfaire les plus gros viandards sans problème.
Ah, absolument. De toute façon, avant j'étais carnivore. Donc avant de venir, je suis passé de carnivore à végane, quasiment du jour au lendemain. Donc c'était quand même une assez forte transition. Ce qui fait que je ne peux que respecter en fait le choix de chacun. Je veux dire, je ne vais pas être là pour dire aux gens c'est bien ou c'est pas bien. Ouais. C'est pas l'objectif. Maintenant, effectivement.
Et d'autant que vous êtes revenu à un régime plus flexitarien.
Ouais, tout à fait. Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. J'ai fait 3 ans d'expérience végane. Donc voilà, enfin je l'ai vécu. Donc c'est
Est-ce que vous l'avez bien vécu?
Oui, non, ça change complètement la perception du goût. ça change tout.
Ouais. Mais, qu'est-ce que ça change, justement?
C'est-à-dire qu'on a même, au moment quand on devient vegan, on peut avoir un dégoût de tout ce qui est animal. Mais naturellement, c'est-à-dire le corps a un rejet. C'est-à-dire que dès qu'on voit un morceau de viande, l'odeur, enfin tout, après, fait qu'on a un rejet vis-à-vis du produit. Donc c'est sans que ce soit d'un point de vue intellectuel ou quoi que ce soit. C'est le goût, n'importe quel produit, après, moi, c'est ce que je ressentais, en tout cas, quand je l'étais. Mmh. Donc ça devient un peu, c'est un peu compliqué, après, aussi, dans les relations avec les gens. Bon, maintenant, c'est facile, parce qu'il y a beaucoup de véganes un peu partout. Mais quand je l'ai expérimenté, il n'y avait pas tant de monde que ça.
La bonne tripaille qu'on appréciait avant devient de la kryptonite après, c'est ça.
Donc, c'est marrant, c'est le corps qui change en fait. Donc c'est notre perception du goût qui change. Mais bon, après voilà, je suis revenu. Donc, mais ce qui fait que maintenant, j'essaie d'être plus... j'alterne, on va dire.
Mmh. Donc, en quoi ça a changé votre façon de cuisiner, finalement?
Ça a changé sur une meilleure connaissance des végétaux. C'est-à-dire que et de se dire que quand je cuis du végétal, j'essaye de rester végétal, ne pas mélanger autant que ça l'animal et le végétal,
et ne pas surcuire aussi les végétaux.
Absolument.
Ça c'est la grosse erreur de beaucoup de chefs, c'est de surcuire les végétaux.
Ça c'est absolu, parce que forcément dès que vous êtes dans le vegan, vous êtes aussi vous avez une notion des bienfaits des végétaux, puisque vous ne nourrissez qu'avec ça, donc vous dites que vous avez besoin des vitamines. Donc effectivement, faites très attention aux températures. Parce qu'au-delà de 70 degrés, en fait, vous flinguez tout. Donc faites pas de sur-température, de surcuisson. En fait, vous essayez d'apprendre un peu mieux à connaître les réactions du végétal. Et comment, après, bon, si en cuisine, c'est plus comment le sublimer, lui donner un peu d'attrait au niveau du goût. Mais même surtout, hein, une soupe, vous n'allez pas faire une soupe qui va cuire très longtemps ou à des très fortes températures. Vous allez faire beaucoup plus d'infusions. Puis d'autant plus que maintenant, on a des machines qui nous permettent de broyer les aliments... presque pas trop cuit, donc vous préservez d'autant plus
le fameux Thermomix par exemple.
En l'occurrence, je donnais pas de marque, mais
on peut dans l'émission, on peut.
Mais exactement, mais c'est vrai, ça permet avec des aliments peu cuits d'obtenir un résultat qui est pas mal. Ça fixe les couleurs, ça fixe plus les vitamines, donc vous arrivez à des choses qui sont plus intéressantes. Et ça, c'est surtout là-dessus que le fait d'être vegan m'a amené à réfléchir vraiment sur le produit, et ensuite sur les associations, et de comprendre aussi que, par exemple, dans l'histoire, ce qui est assez marrant quand même, c'est de voir que tous les peuples anciens mangeaient vegan, en réalité. Je veux dire, si vous prenez le cas on prend le mélange, parce que pour manger, pour avoir des protéines, quand vous n'avez pas de viande, pas de poisson, vous êtes obligé de cumuler des céréales et des légumineuses. Prenez l'exemple, prenez le couscous. Parfait.
On est parfait, couscous vegan.
Le couscous, à la base, on voit que c'est un plat vegan. C'est-à-dire que c'était de la graine et des pois chiches. Donc vous avez bien une céréale, vous avez bien une légumineuse. Donc,
et le pois chiche, c'est la protéine végétale la plus complète, d'ailleurs.
Ouais. Et l'association des deux fait le truc.
Oui, parce qu'on s'en sert même de l'eau de l'eau de...
Oui, l'eau de pois chiche pour faire les blancs d'œufs.
De l'eau de pois chiche pour remplacer les œufs en pâtisserie sans œufs.
Voilà, exactement. Ça, j'utilise. Ça, on le travaille. C'est-à-dire, par exemple, à Descense, on a fait un menu. Il y a un menu terre-mère classique, et il y a un menu végétarien qui est même plus végétarien, qui devient vegan. C'est-à-dire, au lieu de faire du végétarien, autant faire du vegan. C'est-à-dire, dans le végétal, vraiment dans le végétal. Moi, enfin, c'est plutôt comme ça que je pense. Faire le truc entre les deux me gêne un peu. Bon, voilà, c'est.
Alors, ça permet pour la partie de nos auditeurs qui mangent halal, par exemple, et qui généralement, quand ils vont dans des restaurants gastronomiques où il y a des menus dégustation, le chef bricole un truc à l'arrache au dernier moment quand ils disent je prends pas de viande, et du coup, ils se retrouvent avec des trucs un peu improvisés qui sont pas forcément réussis. C'est pas de la faute du chef. Hein, bon, pris au dépourvu, mais effectivement, bon d'essence, le menu 100%. 100% végétal, ça permet de profiter d'un beau menu dégustation gastronomique.
Il n'y a plus de contraintes de religion.
Encensé par le fooding tous les ans.
Non, mais c'est vrai, c'est une démarche. Il est, en plus, celui-là, il est sans gluten et sans lactose, donc il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les gens, là, ils sont dans le végétal.
La totale.
Ouais,
la totale.
Comme ça, vous n'avez plus personne qui dit « moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Au moins, vous êtes tranquille. Mais bon, c'est pas mal. Enfin, c'est une démarche, en tout cas.
Voilà. Et puis après, vous pouvez aller manger un dessert chez Atef Barbouche, les gâteaux 100% fruits, voilà, sans farine, sans
gluten. Bien, d'ailleurs, vous allez manger cru aujourd'hui, puisque tout à l'heure, un tirage au sort, Manu.
Absolument, puisque Philippe Baranès vous permet de gagner justement dans son restaurant Brézanville, dont on était en train de parler. Hein. Vous pouvez jouer à partir de 13h30 exactement sur mon Instagram, mariani.manuel, mariani.manuel. Donc à 13h30, commande précise, vous venez et vous pourrez participer et jouer pour gagner un repas pour deux au Brézanville, voilà, restaurant gastronomique.
Et un autre tirage au sort, Manu, aujourd'hui, puisqu'il y avait un concours la semaine dernière.
Absolument, la semaine dernière, on vous proposait de gagner le livre « Poisson cru ou presque » de Carice Solomon, la plus française des English, à Paris, aux éditions La Martinière. Un livre très très sympa, qui vous explique comment faire des ceviches, des carpaccio, mais des tataki aussi, d'où le presque cru, des poissons qu'on snack vite fait, et donc c'était un très beau livre. On fera le tirage au sort tout à l'heure. Vous avez été très très nombreux à jouer.
Voilà, et dans un instant nous allons parler de truffes, Manu,
et de champignons surtout.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon.
Il y en a, mais elles sont pas encore
sur Beur FM.
Vous étiez là encore.
Voilà, émission spéciale consacrée aux champignons, Manu. Et oui. Alors, vous me dites que vous avez un trufficulteur au téléphone.
Ah oui, Philippe, parce que vous savez, la truffe, c'est un champignon, contrairement aux idées reçues. Beaucoup de gens pensent que la truffe, c'est, je sais pas, un ovni, une pierre molle, je ne sais pas. Mais non, la truffe, c'est bien un champignon. Et donc, justement, on a un trufficulteur avec nous au téléphone. On a Guillaume G, qui cultive des truffes, qui élève des truffes. Les truffes, ça s'élève plus que ça se cultive, en Aquitaine. Ce sont les truffes Alena. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Manu. Comment allez-vous?
Bah, ça va très bien, et vous?
Ça va très bien, il fait beau, tout va bien.
Bon, alors on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps avec notre ami commun Patrick Sicard, qui est l'ancien président de Le Nôtre, à l'hôtel Crillon, où vous faisiez déguster vos truffes.
Oh, vous avez une vie difficile, Manu.
Ben oui, attendez. Hein,
franchement, ouais.
Ah, il faut bien un bel écrin pour des belles truffes.
Tout à fait.
Bon. Et donc, on a pu déguster vos truffes. Alors vous, vos truffes sont d'Aquitaine. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec les truffes du Périgord au niveau de la taille, de la saveur? C'est de la tuber mélalosporum, donc de la truffe noire, comme on dit. C'est la même variété?
Tout à fait. En fait, la truffe noire du Périgord, ça n'est nullement une indication d'origine géographique. C'est juste un nom commun, en fait.
Et c'est comme le melon de Cavaillon qui peut se cultiver ailleurs qu'à Cavaillon, quoi.
Complètement, de la truffe noire du Périgord, vous en trouvez bien entendu en Dordogne, vous en trouvez en Aquitaine, dans le sud-est de la France, ou alors au Chili, en Espagne et dans les pays de l'Est.
Et même en Chine, hélas. Mais c'est pas la même variété.
Ça n'est pas la même variété, tout à fait. Après, vous avez raison, il y a des typicités liées au terroir. Et de même manière qu'on peut définir un vin selon son terroir, on peut définir une truffe selon son terroir également.
Bon, alors aujourd'hui on parle des champignons et des truffes dans l'émission, puisque la truffe, comme je le disais, est un champignon, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Est-ce que, comme les champignons, on peut aller en forêt et cueillir sa truffe?
Oui, bien entendu, bien sûr. Oui, parce que la truffe est un champignon qui vit en symbiose avec les racines d'un arbre hôte. Donc, bien entendu, vous pouvez trouver une truffe au pied d'un arbre truffier.
Mais alors, il faut...
Le terroir est optimum, vous pouvez en trouver.
Mais bon, généralement, on utilise l'odorat d'un chien ou d'un cochon pour qu'on appelle truffier, d'ailleurs, pour trouver les truffes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut humer la mousse au pied des arbres, ou il faut creuser une tranchée autour? Comment ça se passe?
Il faut bien avoir un chien qui a été dressé pour trouver.
Voilà, c'est ça.
Complètement.
C'est ça. Ils sont dressés, en fait. C'est ça.
Oui, complètement. Ils sont dressés, mais c'est très simple, en fait, vous savez. Un chien, au plus jeune âge, vous lui donnez un petit morceau de truffe, vous le cachez dans une petite boîte type Kinder, il joue, vous lui donnez une récompense, et voilà, vous allez avoir un chien qui est élevé à trouver la truffe.
Bon, alors, j'ai un ami qui a essayé avec de l'arôme truffe, qui n'est donc pas de la vraie truffe, c'est de la truffe de synthèse, et ça marche aussi, pour éduquer un chien. Alors, évitez l'arôme truffe pour cuisiner, parce que c'est dégueulasse, mais par contre, pour former un chien, c'est pas mal, ça marche aussi.
Vous avez tout à fait raison.
Ah ben, merci. Je suis heureux que Philippe vous l'entende dire. Je parle de Philippe Robichon, mon collègue, pas de Philippe Baranès, notre invité.
Vous m'avez donné un cours de truffe ce matin, et j'étais impressionné, Manu. Est-ce qu'il y a une saison pour la truffe ?
Alors oui, enfin chaque variété a sa saison hein, au niveau de la truffe. Alors là, on est dans le tout début de la saison de la truffe. J'en ai goûté quelques-unes et effectivement, je trouve que elle est pas au top de sa saveur encore. Hein. Je pense que vous me contredirez pas, Guillaume. Là, on est vraiment au tout début.
Ouais, le truc, la saison va commencer vers le 20 novembre.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire moi. J'allais dire 15 novembre. On est à 5 jours près. On est ok là-dessus. C'est vraiment la mi-novembre où la truffe commence à vraiment. On parle de la truffe noire, hein, de la truffe du Périgord, donc la Tuber melanosporum. Parce que comme on va le voir, il y a beaucoup de variétés de truffes. Donc la melanosporum, elle fait 5 à 10 centimètres pour 20 à 100 grammes à peu près. Et elle va du gris au noir. Hein, et puis à l'intérieur, elle est marbrée. Elle est brune avec des espèces de veines un peu blanches. Voilà. Et donc, comme le disait Guillaume, elle ne se cultive pas que dans le Périgord, la truffe du Périgord. Elle se cultive aussi en Aquitaine, comme Guillaume, et les truffes Aléna, comme le Périgord, le Quercy, la Drôme, dans le Lot, mais aussi donc Italie, Espagne, etc. Donc le début de la saison, vraiment, c'est mi-novembre. On va jusqu'à fin mars, à peu près, hein, avec une pleine saison. Là où elle est vraiment très très bonne, et hélas pour les réveillons de Noël et du jour de l'an, c'est fin janvier, début février, c'est ce que nous disait notre invité Philippe, ouais, février, c'est là qu'elle est vraiment au top, quoi.
Disons que au mois de janvier, février, la truffe est très puissante, très musquée, mais moi j'apprécie vraiment la truffe du mois de décembre.
Ouais, elle est fine, elle est très fine au mois de décembre.
Voilà, complètement, tout à fait. Qu'il y a une gamme organoleptique beaucoup plus développée qu'au mois de janvier où c'est vraiment de la puissance.
Ouais, alors vous parlez d'organoleptique justement. La truffe, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Hein. Bon, hélas pour se soigner avec, il faut peut-être en manger beaucoup, donc ça revient un peu cher. On parlera du prix de la truffe après, mais vous avez une option hein, pour avoir des truffes tous les ans, pas trop cher. On va en parler à la fin. C'est quelque chose que vous venez de lancer. Mais parlons des propriétés santé de la truffe. C'est quand même très bon pour la santé, la truffe.
Ça n'a que des qualités. Et ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas grossir. Vous l'avez dit vous-même. Comme on en utilise très peu, ça ne fait pas grossir. C'est ça qui est bien.
Enfin, on en utilise très peu parce que c'est aussi quand même cher.
Bah oui, c'est ce qu'on dirait.
C'est ouais. Très cher, hein, la truffe.
Ouais, au-delà de l'aspect financier, dans un plat à la truffe, vous mettez entre 5 et 10 grammes. Et si vous avez une truffe de qualité qui est assez puissante, c'est bien suffisant pour aromatiser un plat.
Et pourquoi c'est si cher?
Bon, c'est une question d'offre et de demande.
C'est la rareté, hein. C'est la rareté.
Ouais, complètement, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous on essaie de produire régulièrement avec qualité et des rendements assez importants dans notre fief. Pour en fait démocratiser.
Ouais, Guillaume, quand vous vous baladez avec votre chien truffier dans votre exploitation, il vous faut combien de temps pour que Médor trouve, je sais pas comment il s'appelle, votre chien préféré dans l'exploitation, mais il faut combien de temps pour que le chien trouve une truffe? Parce que ça peut expliquer aux gens aussi pourquoi c'est si cher. C'est-à-dire, pour trouver une truffe de 50 grammes, ça prend combien de temps? 20 minutes? Une demi-heure?
Non, mais en fait, nous sommes un très très mauvais exemple parce que on sait produire de la truffe encore une fois en grande quantité et donc pour trouver une truffe, il faut du moment où le chien est lâché à la truffière, il faut 20 secondes.
Oui, d'accord. Il fait une razzia, le chien.
Tout à fait. En fait, en une heure de ce qu'on appelle de cabage, donc récolte, on trouve entre 20 kilos et 5 kilos.
Oui, parce que vous utilisez une partie de votre production pour, comment dire, ensemencer, féconder, je sais pas comment on peut dire...
Remicoriser.
De nouveaux arbres. Donc vous utilisez une part de votre production justement pour étendre votre production. Hein.
Complètement. En fait, s'il y a deux chiffres à retenir dans la trufficulture, c'est qu'il y a un siècle, la France produisait 1000 tonnes de truffes, alors qu'elle n'en produit plus que 30 tonnes les bonnes années en ce moment.
Oui.
Tout simplement parce que la truffe, c'est champignon des forêts jeunes. Quand la forêt s'installe dans une nouvelle parcelle, la truffe arrive avec la forêt. Et quand le milieu végétal se referme, quand la forêt devient forêt, la truffe disparaît. Donc en fait, nous, on recrée le biotope de la truffe tel qu'il était le siècle précédent.
D'accord. Oui. Donc vous comment dire, vous, il y en a qui reboisent, vous retruffez quoi, vous remicorisez, voilà.
Ça veut dire qu'en fait on plante des arbres régulièrement, on taille des arbres, on remicorise, on remet de la truffe chez les arbres et on travaille le sol pour avoir un sol très aéré, tel qu'il était au siècle précédent, puisqu'au siècle précédent il y avait moins de mécanisation, les sols étaient beaucoup plus aérés et beaucoup plus propices au développement de la truffe.
Alors vous avez lancé un truc, c'est qu'on peut parrainer un arbre avec vous, Guillaume.
Complètement, tout à fait. Toujours dans le souci de démocratiser la truffe et la rendre disponible auprès de tous, et surtout de la démocratiser, la désacraliser. En fait, on permet à tout un chacun d'adopter un chêne truffier. Dans notre dernière truffière qui est en plein Périgord, à Gourossignol, qui est planté sur 29 hectares. Et en fait, on permet donc au public d'adopter un arbre pour une durée de 15 ans. Et on redonne 100% de la production de cet arbre
à son parrain.
Pour permettre à l'adoptant de patienter les 5 premières années, on lui offre des truffes fraîches de notre production, ainsi que des suprêmes de truffes dont on parlera tout à l'heure.
Oui.
Et donc pour un coût de 750 euros.
Voilà, 750 euros, c'est pas tous les ans, hein. C'est pour les 15 ans, je précise, hein, parce que.
Et alors après, on a 15 ans de truffes, c'est ça?
Vous avez 15 ans de truffes, les 5 premières années, vous avez les truffes qu'on vous offre. D'ailleurs, la valeur des truffes qu'on vous offre les 5 premières années, c'est déjà 450 euros, vous voyez,
Je vois Philippe Baranès, là, et ses 4 restaurants, on le voit en train de calculer dans sa tête les coûts de revient. Vous allez peut-être avoir un nouveau client.
Planter une forêt.
Oui, c'est ça. Vous allez avoir un parrain qui va vous acheter un bout de forêt où il va planter rue Condorcet, je ne sais pas.
Avec le plus grand plaisir, parce que, comme vous le savez, Manu, il y a pas mal de chefs déjà qui nous ont accompagnés dans la démarche.
Oui, il y a des grands chefs, des meilleurs ouvriers de France, des chefs renommés.
Michel Girard, Christophe Baquier, Christian Tête-Doie, Mathieu Gannet, Arnaud Lallemand, pas mal d'étoilés à travers la France qui nous accompagnent dans notre démarche de traçabilité, transparence, etc.
Ouais, et puis vous avez même un adoptant, un certain Joël Dupuche, hein, qui fait des très belles huîtres, qui a un arbre chez vous. Hein.
Tout à fait, Joël a un très bel arbre chez nous. C'était un des premiers adoptants, parce que pour lui, bien évidemment, la production française, la traçabilité, c'est important. On partage les mêmes valeurs.
Alors, contrairement aux idées reçues, Guillaume, la truffe noire, donc la truffe du Périgord, ou la truffe mélanosporum, hein, pour donner son nom scientifique, c'est pas la truffe la plus chère. Hein. Il y a la truffe blanche qui est beaucoup plus chère que la truffe noire.
Tout à fait, il y a la truffe blanche, la truffe d'Alba, qui est originaire, de même manière que la truffe noire du Périgord ne vient pas forcément du Périgord, la truffe d'Alba ne vient pas forcément d'Alba. Elle vient d'Italie et des pays d'Est.
Oui, c'est la truffe du Piémont, en réalité, la truffe d'Alba, hein, pour être précis.
Oui, on la surnomme comme ça.
Et effectivement, comme c'est la plus rare, hein, Philippe, ça répond directement à votre question.
La question du prix,
question.
Du prix, ouais.
Ouais, ouais. C'est la plus rare, donc la plus chère. Et bon, c'est une saveur un peu différente, mais Guillaume, il y a une saveur un peu, je sais pas, un peu fumée, un peu boisée, un peu champêtre, qui est commune à toutes les truffes. Alors avec des intensités différentes, évidemment, puisqu'une truffe d'été ou une truffe de Chine n'a évidemment pas la même saveur qu'une truffe noire du Périgord. Quelle est cette saveur commune un peu à toutes les truffes? Comment vous le décririez-vous avec vos mots de trufficulteur?
Il y a un goût boisé dans chaque truffe. Maintenant, je pense qu'il faut éviter les comparaisons. De la même manière qu'on comparera difficilement un cèpe avec un champignon de Paris ou avec une morille, il est compliqué de comparer la truffe d'été avec la truffe de Bourgogne, la truffe noire ou la truffe d'Alba. Ce sont des champignons complètement différents.
Alors vous faites un autre produit aussi, alors je ne sais pas si vous faites ça avec des chutes ou des épluchures de truffes ou autre, mais vous faites un espèce, je ne sais pas comment l'appeler, mais vous faites j'ai goûté ça justement, un suprême de truffes. Moi j'appellerais ça plus du caviar de truffes, parce que c'est vrai qu'en cuisine, un suprême c'est plus une tranche de quelque chose que quelque chose de mixé, mais même si c'est mixé, ça a quand même du croquant, etc. C'est pas une bouillie, c'est vrai. C'est pour ça que j'appelle ça un caviar, on dirait un caviar de truffes un petit peu. Comment vous avez eu l'idée de lancer ça?
Tout d'abord, vous avez tout à fait raison, ça ressemble à du caviar. On aurait voulu l'appeler caviar de truffe, mais caviar, c'est un nom qui est protégé. Bon. Donc on l'a appelé suprême, parce que suprême, en fait, pour la truffe, il n'y a aucune dénomination qui existait avant qu'on le crée.
C'est-à-dire que tous ceux qui vendent du caviar d'aubergine peuvent être attaqués en justice?
Non, caviar d'aubergine, justement, c'est une, c'est une tolérance qui a été
faite
pour le nom Caligra.
Bon, vous avez vous rassurez tous les restaurants grecs et libanais de Paris, là.
Le suprême de truffe, en fait, c'est un produit qu'on a créé à la base pour les chefs, pour les, notamment pour les grands chefs. Et c'est un produit qui leur sert de préparation pour les pour leur préparation donc à la truffe. Et c'est de la truffe qu'on met en surrélation au mois de janvier, février, quand elle est à pleine maturité, comme vous le disiez tout à l'heure, là où elle est à son summum de maturité.
Ok, alors Guillaume, merci pour toutes ces informations. Alors on approche de la pause, donc je vais donner pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus et puis éventuellement savoir où acheter vos produits ou comment adopter un arbre truffier. On donne votre site internet. Donc c'est truffe au singulier -6 Alena ALENA.fr. Hein, c'est bien ça, truffe au singulier -6 Alena, ah bah vous voyez, bah j'ai bien fait de vous demander si c'était ça. Donc Alena, ALENA.com. Et donc là, vous aurez toutes les informations sur les produits et sur le programme de parrainage d'arbres truffiers de Guillaume G. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous.
À bientôt.
Merci, Guillaume. On est en train d'installer Maître Boily, puisque dans un instant, le tirage au sort du concours de la semaine dernière, Manu.
Oui, absolument. La semaine dernière, on vous a proposé de gagner un livre dont je ne retrouve pas le nom.
Je peux vous le donner, si vous voulez, Manu.
Ouais.
Si je peux vous aider. Hein. Mais sinon, vous le faites avant midi.
Poisson cru ou presque, de Carice Solomon, aux éditions La Martinière. Un super livre pour vous apprendre à faire des ceviches, des carpaccio, des tataki, tout ça. C'est un livre vraiment super intéressant. Quand je l'ai feuilleté, j'ai failli le garder pour moi plutôt que de vous le mettre en jeu. Mais bon, les auditeurs d'abord. Je me contenterai de la version PDF.
Voilà, c'est peut-être vous qui repartirez avec ce livre. Et puis Philippe Baranès, notre invité, est avec nous jusqu'à 13h.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, nous recevons Philippe Baranès, Manu, un homme d'univers.
Oui, un homme d'univers, un homme de goût aussi dans la décoration de ses restaurants et puis dans ses assiettes. Puis un serial restaurateur avec Décence, Brézonville, Il Cuoco Galante et le petit dernier de la famille, Amaro. Donc un restaurant, Amaro ça veut dire amer en italien, donc un restaurant où tout est basé sur la mer. On peut dire un bar à cicchetti italien ou un bar à tapas italien, comment vous le décririez?
Ça ressemble à des tapas en fait. Hein. Donc sauf en Italie, je sais pas comment. Oui, il y a cicchetti, tramezzini, enfin c'est ça, c'est des petits encas italiens en fait.
Ouais.
Mais qui peuvent être chauds, qui peuvent être froids, qui peuvent être.
Il y a de la pizza frita, voilà. Y a des arancini, des petits. Des espèces de club sandwich à l'italienne.
Ouais, c'est ça, c'est des tramezzini.
Les tramezzini.
Ouais, là-bas, c'est un peu originaire c'est la culture du nord de l'Italie. Bon, sauf que maintenant, on rajoute un peu de sud au fur et à mesure, parce que ça s'est développé un peu partout en Italie. Mais, c'est très agréable. Et c'est des toutes petites portions, pas chères, justement, parce que c'est juste pour donner le plaisir de. En Italie, ça se prend à l'apéritif. En fait, c'est pour donner envie de manger.
D'où mon image de restaurant à tapas italienne, parce que c'est difficile. Si on dit cicchetti, ça se limite à la cuisine vénitienne.
Exactement. Cicchetti, c'est vénitien. Ouais. C'est dans les baccaros à Venise. Voilà. Et eux, ils mangent que ça. Effectivement. Après, si on va à Milan, c'est autre chose. Eux, on a les panzerotti après qu'on peut retrouver. Ça, c'est des petits chaussons frits avec farci. Enfin, effectivement, dans chaque coin d'Italie, chacun sa petite spécialité de la partie d'espèces de petites tapas. Donc, au fur et à mesure, on fait tourner.
Et puis, ce qui est sympa dans vos restaurants, pas que chez Amaro, c'est que vous êtes vertueux au niveau de l'assiette, mais vous êtes vertueux aussi au niveau des tarifs. Puisque chez Amaro, les fameux cicchetti ou tapas à l'italienne, ça démarre à 3-4 euros.
Le but, c'était de respecter ce qui se passe un peu en Italie. C'est-à-dire de ne pas faire un truc. Je sais, plein de gens m'ont dit, mais pourquoi c'est pas 9, 10 euros? J'ai dit, pourquoi faire? C'est pas comme ça. C'est un truc convivial. Où les gens viennent et ils doivent pas avoir, ils ont envie de prendre un verre et ils veulent manger un petit truc, ils prennent un petit truc. Ils veulent dépenser 10 euros, ils dépensent 10 euros.
Ouais, c'est le vrai apéritivo à l'italienne.
Exactement. C'est ça, c'est cette logique-là. Enfin, moi, c'est ma vision. J'ai voulu respecter. Maintenant, c'est ce que je veux faire.
Voilà, pour faire un vrai repas italien, faut plutôt aller un petit peu plus bas dans la rue. Voilà. Il Coco Galante, qui est votre restaurant italien.
Mais ça n'empêche pas de faire des choses qui peuvent être créatives à 3 euros ou à 4 euros.
Oui, parce que effectivement, il y a la petite baranesse touch, comme on dit, dans vos apéritifs italiens.
C'est quoi la baranesse touch, Manu?
Bah, c'est tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, quoi. Des produits bien sourcés, un respect du produit, qui sont correctement cuisinés, qui sont jolis. Voilà.
Le but, c'est de faire plaisir aux gens aussi, hein, quand même.
Un petit peu, quand même, voilà. Oui.
C'est un peu ça, quand même. C'est le nerf de la guerre dans ce métier, mon ami. Hein.
Bah, voilà. Il y a un artiste maudit dans votre famille.
Ouais, paraît-il. ouais, on parle de Modigliani. Ouais. ouais. C'est, justement, il était tellement maudit qu'il avait fait peur à mon père. Moi, j'avais dit que je voulais être peintre, il m'avait dit non. Tu fais des études normales et après, si tu veux, tu peux même être plombier. Mais d'abord, tu fais des études. Tellement ils ont été traumatisés par Modigliani. Ouais.
Ouais. Le peintre maudit, hein. Bon.
Ce qui vous a pas empêché.
Il buvait pas que du thé, lui.
Non, il buvait pas que du thé. Loin de là, ouais.
Ce qui vous a pas empêché de tremper dans l'art un peu plus tard.
Oui, ça m'a pas empêché.
Mais vous avez été rattrapé par votre démon d'enfance, c'est la cuisine.
Hein. Ouais. C'est-à-dire que oui, j'ai quand même eu des grands-mères et une mère qui cuisinait beaucoup, donc quand même au contact la partie italienne qui cuisinait, qui avait transmis à ma mère aussi, et l'autre partie française.
Les mamas. Ouais. Quoi, hein, ouais.
Donc j'étais un peu élevé par les femmes, donc c'était pas mal.
Et la partie tunisienne, elle faisait quoi?
La partie tunisienne, elle faisait du couscous, mais pas que du couscous, hein. Bien vu.
Oui, en fait, sachant que le premier consommateur de pâtes dans le monde, ce sont pas les Italiens, sur les Tunisiens.
Ouais, je sais. Ouais.
Donc, ouais. Bon, c'est vrai que l'influence.
Les pâtes, elles sont un peu nées aussi en Afrique du Nord. Hein,
ouais.
On oublie, hein.
Ouais, non, mais on parle de Marco Polo, mais c'est vrai que.
Je suis allé en Sicile cet été. L'influence tunisienne, elle est très forte. Hein.
Ouais. La rechta a pu être inventée avant les spaghettis, je pense.
Ouais. faut peut-être pas le dire aux Italiens, j'en sais rien, mais.
Je pense qu'on a plus de Tunisiens ou d'Algériens que d'Italiens qui nous écoutent. Enfin, peut-être pas aujourd'hui.
Non, mais moi après, je peux rentrer là-dedans aussi, hein, sur les plats tunisiens. Il y a des trucs que j'adore. Donc,
bon, on vous fera revenir pour la shakshuka. Hein.
Oui, la melochia, moi j'aime mieux. Encore.
Ah, la melochia, oui, ouais, bien sûr.
Si on me demande à moi, c'est.
Alors c'est meilleur à manger qu'à voir.
Ouais, hein, exactement. Ouais. Mais à manger, c'est quand même terrible.
Ouais, enfin, c'est super bon, la melochia avec la corette.
Moi j'adore ça, mais bon après c'est chacun son.
On explique à tout le monde ce que c'est.
La melochia, c'est un plat de viande, souvent de l'agneau mijoté avec de la corette qu'on trouve en poudre ou en feuilles séchées. Et quand elle cuit, c'est un peu comme les gombos. Beau, quoi.
Ouais, bah ça c'est la gnaouia, le truc, là, moi, ça aussi, j'adore ça aussi.
Voilà.
Quand
c'est cuit, la corette, donc quand on en fait de la melochia, ça devient un peu vert fluo gluant. c'est pas hyper appétissant, quoi. Mais
je vais essayer d'en faire à Brazzaville. On l'a déjà fait goûter, j'ai déjà fait tester. Ah, ouais. Parce que je trouve que c'est intéressant, même
à faire connaître.
Ouais. Car maintenant, on est en une époque où il faut arrêter d'imaginer les trucs un peu trop.
De cloisonner trop la cuisine, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, j'avais été à Tunis, j'avais été regoûté dans le souk, franchement, était top. Hein. Enfin,
c'est très bon, mais on peut trouver de la corette hein, facilement dans les marchands orientaux.
On la trouve en sachet, exactement en poudre. Donc,
Bon, Manu, je crois que Maître Boily a sorti tout son attirail déjà.
Ouais, alors Maître Boily va lancer la roue.
Huissier à Charenton. Hein,
voilà, huissier qu'à Charenton-le-Pont d'ailleurs. Et donc, Maître Boily va lancer la roue et on saura le gagnant ou la gagnante du livre Poisson cru ou presque. Donc, le livre de Carrie Solomon. Et puis à partir de 13h30, vous pourrez jouer sur mon Instagram, Mariani, mariani.manuel, M-A-N-U-E-L.
Maître Boily, c'est quand vous voulez. Hein,
pour gagner un. Oui, parce que je voulais parler pendant que la roue tournait, mais. Voilà. Et donc, sur mon Instagram, mariani.manuel, vous pourrez gagner à partir de 13h30 un repas pour deux au Brazzaville, l'un des restaurants de notre invité, Philippe Baranès.
Genre, la boule est en train de s'arrêter sur un gagnant.
Eh oui, la boule s'est arrêtée sur Audrey Noussou 2. Voilà, qui est la gagnante. Alors, bon, j'imagine qu'elle s'appelle Audrey. Qui gagne donc ce livre Poisson cru ou presque pour apprendre à faire des ceviches, des carpaccio, des tataki avec tous les poissons et puis quelques fruits de mer aussi. Un super livre de Carrie Solomon, la plus anglo-saxonne des Parisiennes ou le contraire, comme vous voulez, aux éditions La Martinière. Bravo à elle.
Bien, des gens viennent vous voir en cuisine pour vous demander des recettes, Philippe Baranès, comme vous le faites.
Ouais, enfin ça arrive que les gens viennent demander. Ouais, non, c'est vrai que ça arrive souvent en plus.
Ah ben moi je suis allé chercher la recette du cannoli en cuisine avant-hier chez Philippe Baranès. Hein.
Ça c'est un truc que vous aimez faire quand un plat vous plaît, c'est d'aller voir les chefs et leur demander la recette.
Oui, absolument. Je l'ai même fait il y a un an et demi. J'avais été chez Canroca en Espagne. J'étais allé voir à la sortie. Et j'aurais été demandé, oui, pour communiquer sur une recette. Je me rappelle très bien, c'était du tartare. C'était pas un tartare, c'était en fait de la ventrèche de thon avec du gras de veau.
Ça, c'est bon, ça.
Mais c'était une tuerie. Ouais. Le truc, c'était une tuerie. Et avec de l'huile de feuilles de figuier, ça, je me rappelle très très bien. C'était une tuerie, c'est un des plats qui m'a marqué. Et avec un certain poivron spécial qui s'appelle Nora, qui est en Espagne, en Catalogne, qui utilise, c'était une tuerie.
Et le gars vous a donné sa recette?
Ouais, absolument. Ouais.
Partage.
Entre chefs, entre restaurateurs, ça se fait.
C'est assez spontané.
Il n'y a pas de concurrence entre chefs, il y a vraiment une solidarité importante.
Ouais. C'est vrai. Ça, c'est. J'avais trouvé ça super agréable. Il était très, très agréable.
Parce que la cuisine, c'est la transmission quand même. Donc, un chef transmet toujours.
5 heures à table, j'avais passé, je me rappelle ce jour.
Ouais, Canroca, il faut expliquer ce que c'est. Hein. Ouais. C'est un restaurant triplement étoilé au Michelin, en Espagne, enfin en Catalogne. Et c'est un peu le successeur d'El Bouli, quoi, plus ou moins. Ouais. Et c'est vrai qu'il fait un menu dégustation, alors je sais pas combien, 12, 15, 20 assiettes.
À 13h, on était à table et je suis parti, c'est ça, 17h30.
Voilà, et ce sont que des petites bouchées, hein, c'est pratiquement tout en une bouchée.
Ouais, pour qu'il aimait bien les petites bouchées, c'était bien pour vous. Ah oui, pour le coup.
Alors c'est long hein, pour se rassasier, mais.
C'est impressionnant, mais c'est un balai comme ça, ça n'arrête pas. Bon, j'avais jamais fait autant de temps à table, mais c'est vrai que c'est un plaisir. Hein.
Et puis comme ils aiment en Espagne et surtout en Catalogne, hein, puisque c'est El Bouli qui avait lancé un peu ça en Espagne.
Il faut expliquer à ceux qui n'étaient pas nés qui était El Bouli quand même.
Ouais. C'est ce qu'a fait Thierry Marx, c'est ce qu'a fait Hervétis, hein, c'est la cuisine moléculaire. Donc on se sert de la science parce que faut pas oublier une chose, c'est que la cuisine c'est un peu de la chimie aussi parce que quand on dit qu'une mayonnaise c'est une émulsion, c'est un principe chimique. Hein. Quand on fait une viande à la poêle ou quand on la braise,
il y a la
réaction de Maillard qui fait que la viande va être, si elle est bien cuite, elle va être croustillante. À l'extérieur, dorée à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Voilà, il y a tout un tas de, on appelle ça croûter une viande. Il y a tout ça, c'est un peu de la chimie. Voilà.
On parlait des truffes tout à l'heure, Philippe Baranès. Quelle est votre interprétation, vous, de la truffe?
Mon interprétation, c'est comment je l'utilise. Moi, le plus simple possible, c'est-à-dire, je suis très sur le côté cru, juste des lamelles. C'est là que je trouve qu'elle exprime le mieux son goût et en plus la sensation de croquant un peu quand on a il y a la texture et il y a le goût, les arômes. Comme c'est très très volatile, moi, j'ai du mal à la cuire. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que
cru,
je trouve que c'est là, quand elle a une bonne maturité, bon parfum, je trouve que c'est là où je trouve que c'est génial en fait.
Oui, et donc comme on doit parler des champignons aussi, même s'il nous reste plus beaucoup de temps, juste en deux mots, bon c'est pas grave, on refera une émission peut-être spécifique sur les champignons, Philippe, si vous êtes d'accord, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais des champignons, vous en avez, vous en cuisinez pas mal au Brézonville, donc ce restaurant où vous cuisez tout au four, j'espère. Ouais. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la saveur aux champignons, cette cuisson à la braise?
L'avantage du Josper, c'est que c'est un four qui cuit très vite, en fait.
Et très chaud, ouais.
Très chaud.
400, 500, 600 degrés.
Ça monte à 500, mais bon, nous, on l'utilise pas à 500, on l'utilise un peu plus bas, mais il a un avantage, c'est qu'il ne dessèche pas les aliments. Comme c'est un four fermé, donc c'est pas comme sur une braise de barbecue, tout est ouvert.
Ouais,
en fait, il y a un dessèchement de l'aliment. Là, il n'y a pas. Donc on garde toute la on flash en fait, et on donne l'arôme et on flash. Donc donc l'intérêt, c'est essentiel sur le champignon, c'est quand même un produit fragile. On arrive à justement garder l'humidité qu'il y a dans le champignon, tout en lui apportant en même temps du goût et un peu de la texture.
Bon, bien. Si vous jouez au concours de la semaine prochaine, vous avez de la chance, hein, Manu.
Oui, puisqu'on on parlait justement du Brézonville de Philippe Baranès et Philippe, très gentiment, a accepté de vous faire gagner un repas pour deux. Vous pouvez jouer à partir de 13h30 sur mon Instagram, Mariani, M-A-R-I-A-N-I, point Manuel, M-A-N-U-E-L, à partir de 13h30. Le jeu concours sera en ligne. Vous pourrez gagner donc ce repas pour deux au Braise-en-Ville. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les restaurants de Philippe Baranès, on va donner son site internet. Vous saurez tout, sa vie, son œuvre. Plutôt que de vous donner les sites internet des quatre restaurants, on vous donne le site internet de Philippe Baranès. Donc, philippe.baranès, alors baranes.com. Et là, vous aurez tout, sa vie, son œuvre, ses plus belles photos et ses meilleurs titres.
Exactement. Vous réécoutez l'émission en podcast et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Manu, à samedi, passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.